Bon, donc bienvenue dans cette deuxième séance et ce troisième cours consacré au cuprate supraconducteur. Alors en fait, le cours d'aujourd'hui est une sorte de continuation de celui de la dernière fois. Vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais un peu manqué de temps pour vous donner une sorte de premier panorama de la phénoménologie de ces matériaux. Et donc, le cours d'aujourd'hui est tout entier consacré à finir ce panorama de des phénomènes physiques. Alors, il est bien évident qu'il s'agit d'une description à grands traits, mais j'espère qu'à la fin de ce cours, vous aurez un petit peu une idée des grands phénomènes qu'on rencontre, au moins dans les cuprates dopés en trous, dans la phase normale, c'est-à-dire la phase non supraconductrice, sachant que je parlerai des propriétés physiques de la phase supraconductrice dans le cours dans deux semaines. Voilà, donc les deux séminaires, aujourd'hui nous avons donc une heure de cours et deux séminaires. Le premier séminaire sera donné par Christophe Berthaud, l'Université de Genève. Il sera consacré à l'étude par microscopie à effet tunnel de ces cuprates. Et le second sera donné par Cameron Beignat, que je vois ici, qui va nous parler de transport d'entropie, d'effet Nernst et de conductivité thermique. À la fois dans l'état normal et dans l'état supra, il faudra un certain nombre de bases sur l'état supra, je suppose, pour suivre ce séminaire, mais enfin, vous avez déjà tous compris qu'il s'agit de supra-D. On y reviendra dans 15 jours. Bien, alors, j'avais manqué de temps la dernière fois pour faire les choses un peu calmement, donc je voudrais reprendre un peu certaines choses. Vous vous souvenez que les grands régimes de ce diagramme de phase, illustrés ici par un diagramme de phase typique, disons, du côté dopé en trou, plutôt LSCO, et du côté dopé en électron, NCCO, donc les grands régimes de ce diagramme de phase. Si je suis dans la configuration cuivre D9, c'est-à-dire sans dopage, eh bien je suis ici, et on a un isolant antiferromagnétique dont j'avais parlé la dernière fois, qui est un isolant de transfert de charge, le blocage des degrés de liberté électronique venant du prix énergétique qu'il faut payer pour placer une lacune sur les oxygènes. Donc un isolant de transfert de charge qui a une transition vers un état antiferromagnétique dont je n'ai pas eu le temps de parler en détail la dernière fois et sur lequel je vais revenir un petit peu dans les premières minutes de ce cours. Et ensuite, quand on dope ce système, en particulier quand on dope ce système avec des trous qui vont donc sur les oxygènes, c'est l'approche de Zangreis dont j'ai parlé la dernière fois, eh bien on observe un état métallique très étrange avec un déficit d'excitation à basse énergie, le pseudo-gap dont on a déjà parlé la dernière fois et sur laquelle je vais revenir en plus grand détail aujourd'hui. J'avais aussi souligné le fait que ce domaine des cuprates est caractérisé par le fait qu'on ne peut pas étudier tous les matériaux, chaque matériau avec toutes les sondes expérimentales qui sont à notre disposition et qu'il y a donc certains matériaux qui se prête plus particulièrement à certaines sondes. Par exemple, il est très difficile de faire de la photoémission sur IBAQO, sauf dans une toute petite gamme de dopage. Il est beaucoup plus facile de le faire sur BISCO ou même sur LSCO. Enfin, il y a tout ce jeu entre les sondes et les matériaux dans ce domaine. Alors, je veux donc vous parler un petit peu pendant 5-10 minutes de la phase antiferromagnétique isolante ici, dans le système non dopé. Donc ces cuprates sont des matériaux qui sont quasi bidimensionnels qui sont d'excellents antiferromagnétiques, parmi les meilleurs antiferromagnétiques connus, avec des températures de Néel qui sont remarquablement élevées pour LSCO de l'ordre de la température ambiante, pour IBAQO 6 encore plus élevé que ça. Les dopés en électrons comme NCCO qui n'ont pas d'oxygène à picot ont des températures de Néel aussi relativement élevé, un peu moins que les CO, mais ont un antiferromagnétisme qui résiste beaucoup plus au dopage. Alors ça, déjà, ça pourrait vous paraître relativement surprenant, puisque si on était strictement à deux dimensions, un seul plan isolé, eh bien, il n'y aurait pas, à strictement parler, d'ordre à longue portée. Il n'y aurait pas de température de Néel. On ne peut pas avoir d'ordre qui brise la symétrie de rotation SU2 ou SO3 des spins à température finie dans un système strictement bidimensionnel. En réalité, c'est bien entendu le couplage interplan qui fixe la température de Néel, mais la dépendance de cette température de Néel dans le couplage interplan est relativement faible, de sorte que ce qui compte réellement, c'est le fait qu'il y ait d'excellentes corrélations antiferromagnétiques dans les plans. Et donc, il faut lire cette température de Néel élevée comme étant un signe que les corrélations antiferromagnétiques dans les plans sont fortes, c'est-à-dire que la longueur de corrélation devient grande, même dans le système bidimensionnel complètement isolé, à des températures relativement élevées. Le fait que ces matériaux soient des antiferromagnétiques, c'est quelque chose dont les gens se sont rendus compte, bien entendu, très tôt, et tout de suite, on s'est intéressé à caractériser de manière précise la nature de cette phase antiferromagnétique, en particulier dans le système La2CuO4 en tout premier lieu. Alors pour ça, il y a évidemment une technique expérimentale particulièrement adaptée qui est la spectroscopie de diffusion de neutrons, dont on entendra parler en grand détail dans deux séminaires la semaine prochaine par Philippe Bourget et Yvan Silis. Et on peut faire un ajustement de la relation de dispersion des ondes de spin pour déterminer, il y a d'autres méthodes également, hein, mais on peut en particulier faire un ajustement de ces relations de dispersion pour déterminer le couplage antiferromagnétique qui résulte de ce mécanisme de super-échange dont j'ai un peu parlé la dernière fois et dont j'avais parlé dans le cours de l'an dernier. Donc ce super-échange magnétique, il est typiquement autour de 130 000 électronvolts. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est grand, qui est de l'ordre de 1500 Kelvin. C'est une énergie considérable et il n'est pas étonnant qu'avec un couplage antiferromagnétique de cet ordre-là, on puisse trouver des températures de Néel élevées. Voilà, vous avez des belles places devant. N'hésitez pas à descendre. Vous allez voir dans le transparent suivant comment on peut réaliser cet ajustement de la relation de dispersion des ondes de spin pour tirer ce nombre. Le moment dans la phase ordonnée, c'est-à-dire sur un des deux sous-réseaux de l'ordre antiferromagnétique, est de l'ordre de 0,6 magnétons de bord. Et ça, vous voyez que c'est quelque chose qui est significativement plus petit que celle d'un ion cuivre de plus, la couche 3D9 isolée, qui est plutôt deux fois plus grande, ce qui signale l'importance des fluctuations quantiques. Pas très étonnant, puisqu'on a un système qui est essentiellement bidimensionnel, dans lesquels on a des fluctuations, la possibilité de fluctuations quantiques importantes. Alors ça, c'est un petit peu, si vous voulez, le début de l'histoire de ce sujet, il y a plus d'une vingtaine d'années. Dans les années plus récentes, il y a eu des travaux plus précis qui ont raffiné ce fit de la relation de dispersion des ondes de spin, en particulier ce travail-là de Koldea et collaborateurs, qui montre qu'en plus de ce couplage à deux entre spins plus proches voisins, il y a également un couplage de type couplage de plaquettes, c'est-à-dire qui est un terme de ce type, qui fait intervenir quatre orbitales du cuivre sur une plaquette comme ceci. Voilà. Donc il y a en fait, bien entendu, il y a aussi des termes second voisins de type SISJ. Hein. Donc un Hamiltonien plus précis serait celui-là. Et en fait, la précision de ces expériences de neutrons, et encore une fois, j'ai vu Philippe Bourges entrer dans la salle, on en aura une description bien plus complète la fois prochaine, la précision de ces expériences de neutrons est telle qu'on peut extraire ces couplages avec une assez grande précision. Alors, ce que vous êtes censé voir sur ces deux images, qui, il faut bien l'admettre, ne sortent pas extrêmement bien, c'est que dans un système où il y aurait seulement J, hein, c'est le calcul qui est ici, eh bien, on n'a pas en fait, de variation de la relation de dispersion des ondes de spin le long de la zone de Brillouin antiferromagnétique, c'est-à-dire le carré emboîté dans la grande zone de Brillouin du système bidimensionnel. Alors qu'en réalité, quand on regarde ici avec précision, il y a une petite dispersion, et cette petite dispersion vient du couplage de plaquettes, qu'on peut ainsi estimer comme étant de l'ordre de 38 000 électronvolts, enfin d'une quarantaine de milliers d'électronvolts. Donc vous voyez que ce n'est pas petit, c'est quand même une fraction significative du J. Alors, est-ce que c'est quelque chose auquel on s'attend? Voilà, donc ça, ça illustre ça un petit peu plus en détail. En fait, dans une description où il y a seulement J, si on se déplace, ça, c'est la zone de Brillouin complète, ça, c'est la zone de Brillouin antiferromagnétique réduite d'un facteur 2 dans l'espace réciproque. Et vous voyez que si on se déplace le long de cette zone, de ce point à ce point, eh bien, on devrait avoir, si on a seulement J, quelque chose de complètement plat. Et en fait, il y a une petite dispersion ici qui est l'existence de ce J plaquette. Alors, est-ce que c'est quelque chose à laquelle on est censé, une chose à laquelle on est censé s'attendre? Eh bien, oui. En fait, j'avais montré la dernière fois des calculs qui traitent le saut cuivre-oxygène de manière perturbative dans le cadre de ce modèle à trois bandes, dont vous vous souvenez, où on retenait l'orbital x2 moins y2 des cuivres et les deux orbitales px et py de l'oxygène. Et si on fait un tel calcul, eh bien on voit qu'à l'ordre, je dirais le plus bas, mais qui est déjà l'ordre, disons, du hopping effectif, de l'amplitude de saut effective au carré, on génère le couplage de super-échange auquel on s'attend, le couplage du super-échange d'Anderson. Alors j'attire votre attention que cette expression-là est très instructive. Elle me dit que ce couplage de super-échange, c'est le carré du hopping effectif, qui est lui-même d'ordre TP des carrés sur delta, puisque c'est un processus qui fait intervenir les oxygènes. Et puis ici, vous voyez qu'il y a 1 sur delta, ce à quoi on s'attend, puisque dans une image de modèle de Hubbard effectif, le coût pour rajouter un électron, c'est bien l'énergie de transfert de charge delta. Donc vous pouvez lire cette formule dans la limite où UDD est très grand, ce qui est une limite tout à fait valable pour ces systèmes, comme T effectif au carré sur U effectif, avec T effectif de l'ordre de TPD carré sur delta et U effectif de l'ordre de delta. Donc ça, c'est la formule à laquelle on s'attend tout à fait. Le calcul donne simplement le coefficient précis qui est à mettre devant, mais aux ordres suivants, on génère également un couplage de plaquettes dont l'expression est donnée ici, extrait de cet article. Alors en fait, si vous mettez dans cette expression des valeurs typiques qui sont celles que j'ai données la dernière fois pour ce saut cuivre-oxygène et cette énergie de transfert de charge, alors vous voyez déjà qu'on n'est pas vraiment dans une limite où TPD est beaucoup plus petit que delta. Il y a plutôt un facteur 2, au mieux un facteur 3, donc ces expressions sont plutôt indicatives que quantitativement correctes. Effectivement, si vous prenez ces valeurs et que vous les insérez dans ces expressions à l'ordre le plus bas, vous trouveriez plutôt un J de l'ordre d'un tiers d'électron-volt, ce qui est clairement trop grand, par en gros un facteur 2. Donc ça veut dire qu'en fait, un calcul plus précis aux ordres supérieurs va réduire cette valeur, et effectivement, c'est ce qui est fait en assez grand détail dans cet article. Ici, ce que vous voyez, c'est J calculé, normalisé à la valeur perturbative qui est là, donc c'est 1 dans la limite TPD égale 0, si vous voulez, et au fur et à mesure qu'on augmente TPD, qu'on sort du régime perturbatif, eh bien, on a une courbe qui baisse, et vous voyez que pour TPD de l'ordre de 1,3 EV, ici, des valeurs typiques ont été prises pour U et delta, eh bien, effectivement, on arrive tout à fait à une valeur qui est une réduction par, en gros, un facteur entre à peu près 3, disons, de cette estimation qui est là. Donc ça, il faut le lire comme on prend ce nombre et on le multiplie par, en gros, 0,3. Et ça donne une valeur pour J qui est tout à fait compatible avec les 100 ou 120 ou 130 millielectronvolts qui sont mesurés par neutrons. Donc on peut dire que cette phase isolante antiferromagnétique, c'est quelque chose qu'on comprend et qu'on comprend même très bien. On la comprend quantitativement du point de vue des couplages antiferromagnétiques par le calcul et par les expériences de neutrons et d'autres expériences de RMN, de diffusion Raman résonante, etc. Et donc, on comprend parfaitement cette phase antiferromagnétique. Je pourrais continuer sur ce sujet, mais je ne vais pas le faire par manque de temps. On comprend également la manière dont la longueur de corrélation antiferromagnétique devient grande, à basse température, dans cette phase antiferromagnétique. Voilà. Donc, au moins, ça, c'est un régime dans lequel on comprend les matériaux, ce n'est pas le régime le plus passionnant, mais c'est sûrement un point de départ essentiel pour comprendre ce qui se passe quand on introduit des dopants. Alors j'avais expliqué la dernière fois que quand on introduit des trous dans cet environnement antiferromagnétique, le mouvement de ces trous est fortement gêné par l'antiferromagnétisme, puisque pour faire bouger un trou, il faut naïvement, dans une image classique, créer une chaîne de spin qu'on retourner, donc un défaut. Et effectivement, Donc ça, c'est un petit peu l'image simple. Et effectivement, quand on fait une mesure, toujours par diffusion de neutrons, de la longueur de corrélation antiferromagnétique en fonction du dopage, donc cette fois, c'est LSCO avec du dopage par le strontium, donc du dopage en trou, eh bien, on voit que la longueur de corrélation antiferromagnétique s'écroule relativement rapidement, hein, en fonction du dopage. Et en gros, elle est donnée de manière à peu près raisonnable par quelque chose qui est la distance entre trous. Donc ça illustre bien l'idée que les trous perturbent l'environnement antiferromagnétique. Alors vous voyez que cette longueur de corrélation, qui est évidemment très grande et divergente en dessous de la température de Néel dans le cas de l'isolant, s'écroule relativement vite. Alors, selon les idées que vous avez en tête, les idées un peu de théorie que vous voulez avancer sur ces matériaux, vous pouvez prendre le point de vue que cette longueur de corrélation reste quand même très importante dans l'état sous-dopé, et ça, c'est quand même difficile à contester, puisque vous voyez, elle reste quand même autour de 5% ici, de l'ordre de 20 angström, hein, donc c'est quand même pas mal de mailles de réseau dans le plan AB. Mais vous pourriez aussi regarder le système plus près de son dopage optimal et dire que dans ce régime-là, ben, la longueur de corrélation antiferromagnétique n'est plus que de 2 ou 3, disons, mailles de réseau. Hein. Donc, mais enfin, il est clair qu'il y a des corrélations antiferromagnétiques significatives dans ces matériaux, même en présence de trous, au moins en dessous du dopage optimal. Alors, il y a d'ailleurs une remarque que je trouve assez intrigante. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été beaucoup, qu'il y ait eu beaucoup d'élaboration sur cette remarque, mais qui a été faite dans un article relativement récent de Hando, enfin une dizaine d'années, qui montre que si on fait des mesures de transport très propres sur LSCO, hein, donc on a je vais revenir à la fin de ce séminaire sur les différents régimes de transport. Donc vous voyez ici, on a un système qui peine à devenir un métal, et puis au fur et à mesure qu'on a introduit des porteurs de charge, devient un métal de meilleur en meilleur. Et si on utilise cette résistivité pour la convertir en mobilité, hein, donc la mobilité sigma égale n mu, donc pour trouver la mobilité, il suffit de prendre la résistivité et puis de multiplier par ne, eh bien vous voyez que si on prend pour n le nombre de trous dans le système, c'est-à-dire essentiellement x, on obtient une courbe pour la mobilité en fonction de x qui a une décroissance, une dépendance en x qui est pratiquement celle de l'inverse de la longueur de corrélation antiferromagnétique. C'est-à-dire que, c'est, au moins de point de vue qualitatif, cette représentation elle a le mérite de faire sentir que le mouvement des trous est inversement corrélé à la portée des interactions antiferromagnétiques. Clairement, le mouvement des trous et l'antiferromagnétisme se font la guerre dans ce système, puisque la mobilité est inversement proportionnelle à la longueur de corrélation, c'est-à-dire la taille des domaines ordonnés, des domaines corrélés dans le système dopé. Alors vous voyez que cet antiferromagnétisme, du point de vue ordre à longue portée, s'écroule extrêmement rapidement avec le dopage. Hein. Ça, c'est la frontière antiferro, ici, par à peu près de la température ambiante et qui s'écroule, et vous voyez qu'à quelques pourcents, elle a complètement disparu, ce qui serait différent du côté dopé en électrons. Ce que cette mesure ici montre, c'est que même dans le système sans ordre à longue portée, les corrélations antiferromagnétiques restent quand même importantes. Ce n'est plus de l'ordre à longue portée, mais c'est quand même des corrélations significatives. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce régime antiferro. Et comme on l'a vu la dernière fois, ce régime antiferromagnétique fait place à un état métallique ici, mais un état qui est caractérisé par la perte de poids spectral dans toutes les spectroscopies pratiquement qu'on peut faire à basse énergie et l'ouverture d'une sorte de pseudo-gap. Ce n'est pas vraiment un gap complet, hein, c'est quand même un état métallique, mais d'une déficience d'état excité qui correspond à certaines régions de la surface de Fermi. Donc c'est ce fameux pseudo-gap dont on a pas mal parlé déjà la dernière fois. Alors, je voudrais donner quelques idées sur la manière dont ce métal émerge. Hein. Donc, j'en ai un tout petit peu parlé la dernière fois. Comment émerge ce métal ici? Alors, une manière de faire ça, c'est de regarder la conductivité optique. On avait vu que ça, c'est la conductivité optique de l'isolant. On introduit des porteurs de charge. Et ce qui se passe, c'est qu'on construit avec difficulté je dirais un pic de Drude. Vous voyez que jusqu'à 6-10%, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un pic très fin à basse fréquence, qui est la caractéristique d'un bon métal. Mais enfin, on construit quand même avec une certaine difficulté un pic de Drude qui devient bien prononcé et bien mince plus haut de page. Et en même temps, on induit aussi du poids spectral à l'intérieur du gap, donc dans cette région dite d'infrarouge moyen. Tout ceci se faisant par transfert de poids spectral en provenance des états qui sont ici, entre, je dirais, à peu près 2 électronvolts au-dessus du gap. Donc il y a transfert de poids spectral à la fois vers cette région d'infrarouge moyen et vers cette région du pic de Drude. Ça, c'est pour LSCO, ça, c'est pour IBAQO. Vous voyez que c'est tout à fait similaire. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est essayer de contraster ça à ce qu'on trouve dans d'autres isolants de mode dopé. Est-ce que cette conductivité optique, c'est quelque chose qui est si étrange que ça, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve dans d'autres isolants de mode dopé? Quelles sont véritablement les caractéristiques des cuprates qui sont communes, je dirais, à d'autres isolants de mode dopé et pour lesquels on a quand même un certain nombre de théories pour comprendre ce qui se passe, et quelles sont les autres caractéristiques qui sont vraiment particulières et exotiques, qui posent des questions fondamentales pour lesquelles on n'a pas forcément de théorie établie. Donc c'est ça que je voudrais faire dans les minutes qui viennent. Alors, le poids spectral qui est transféré dans le pic de Drude, il est en gros linéaire en fonction du dopage. Je ne vais pas discuter ici s'il s'extrapole vraiment à zéro ou pas, qui était l'objet de cet article, en fait, mais en tout cas, il croît quand on augmente le dopage. Donc de ce point de vue-là, le nombre de porteurs disponibles au sens du poids du pic de Drude dans la conductivité optique, c'est bien quelque chose qui croît comme le nombre de trous. Bien, alors, pour contraster ça avec ce qu'il se passe, pour comparer ça avec ce qui se passe dans un isolant de mode plus conventionnel, regardons un système bien connu, bien caractérisé, qui est LATIO3. Donc LATIO3, j'en ai parlé un peu l'année dernière, c'est une pérovskite tridimensionnelle avec un électron D, donc on est tout à fait à gauche des métaux de transition, à la différence du cuivre qui est complètement à droite. On a un électron dans la couche D, dans LATIO3, qui occupe une orbitale T2G trois fois dégénérée. C'est important, vous vous souvenez que j'ai insisté la dernière fois sur le fait qu'une des caractéristiques très particulières des cuprates, c'est qu'on avait une orbitale non dégénérée. Ici, on a trois orbitales essentiellement dégénérées et un électron D dans ce système. Mais si je regarde la conductivité optique en fonction de la fréquence, eh bien vous voyez, c'est un isolant. Ça, c'est l'isolant, hein, LATIO3, avec un petit gap qui est là de 0,2 EV seulement. Et puis, quand on induit des porteurs de charge, alors soit par dopage en strontium, soit par changement de la concentration en oxygène, donc on dope en trou, hein, comme dans LA2CO4, eh bien, on voit aussi émerger un pic à basse fréquence, avec aussi des transferts de poids spectral entre la région immédiatement supérieure au gap et puis la région, je dirais, infrarouge moyen, ici, puis finalement le pic de Drude. Et le poids spectral dans le pic de Drude varie linéairement en fonction du dopage. Donc vous voyez que de ce point de vue, au moins pour les grandes caractéristiques de la manière dont la conductivité optique se comporte en fonction du dopage, il n'y a pas une différence vraiment très grande entre ces titanates dopés en trou et les cuprates dopés en trou. Alors évidemment, si on regarde de manière plus fine, avec beaucoup plus de finesse, la manière dont le temps de relaxation qu'on extrairait d'une formule de Drude varie ici en fonction de l'énergie, on va voir des différences. Mais de ce point de vue-là, en tout cas, il n'y a pas de grande différence. Donc, est-ce qu'on peut au moins expliquer ça? Bon, déjà, ça, c'est relativement surprenant. Vous voyez ce nombre de porteurs qui varie linéairement en fonction du dopage. Pourquoi? Parce que vous avez un système qui, lorsqu'il n'est plus dans une phase magnétiquement ordonnée, et LATIO3, pareil, est un antiferromagnétique, mais quand on le dope, l'antiferromagnétisme disparaît vite. Eh bien, ce système, il a une grande surface de Fermi. Hein. Il a une surface de Fermi, tout au moins c'est ce que nous disent, disons, les calculs de structure électronique, et c'est ce que nous dirait le théorème de Luttinger, dont j'ai parlé l'année dernière. Il nous dirait qu'on a une surface de Fermi grande avec ce qu'on appelle le volume de Luttinger, c'est-à-dire tout simplement que le volume de la surface de Fermi ramené à la surface de la zone de Brillouin, eh bien, compte le nombre d'électrons, c'est-à-dire pas x mais 1 moins x, hein, le nombre d'électrons. Voyez. Reste une grande surface de Fermi qui occupe essentiellement la moitié de la zone de Brillouin quand x est petit. Donc, si on est quelqu'un qui vient de la structure de bande, tout simplement, des électrons sans interaction dans un potentiel périodique, eh bien, on dirait qu'on devrait avoir un moins x porteur de charge, hein, puisqu'on a une surface de Fermi qui contient un moins x électron ou un plus x porteur de charge de type trou, si vous voulez. Bon. Eh bien, ce n'est pas ça qu'on voit dans la conductivité, dans le pic de Drude. Ce qu'on voit, c'est un poids du pic de Drude qui varie comme x. Bon. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien connu et qui est aussi bien compris. Hein, j'avais parlé l'année dernière d'approches de type Goetz-Wheeler ou de type boson esclave ou dans des versions beaucoup plus raffinées de type champ moyen dynamique qui permettent de comprendre les excitations d'énergie finie et ses transferts de poids spectraux. Mais enfin, disons, la description de basse énergie de tout ça est à peu près la même. Dans toutes ces approches, on comprend bien qu'on a une grande surface de Fermi avec le volume de Luttinger, 1 moins x sur 2, mais en même temps, un petit poids du pic de Drude qui ne croît que linéairement en x. Hein? Ce petit poids du pic de Drude va avec le fait que, de toutes les excitations à une particule possible dans le système, seule une petite fraction ressemble à des électrons, sont des bonnes quasi-particules de Landau, et cette fraction, elle, qu'on appelle Z, qui est le poids des quasi-particules de Landau, eh bien, cette fraction Z croît comme X. Et dans ces descriptions les plus simples, ce poids est uniforme sur toute la surface de Fermi. C'est-à-dire qu'on garde une grande surface de Fermi, mais avec un poids des quasi-particules qui est très fortement réduit par les corrélations proportionnelles au nombre de trous sur l'ensemble de la surface de Fermi. Alors, ce qui veut dire aussi qu'il apparaît dans le système une échelle de cohérence caractéristique, c'est-à-dire une échelle d'énergie au-dessus de laquelle on détruit les quasi-particules. Très concrètement, ça veut dire que si on faisait une expérience de spectroscopie de photoémission, on ne verrait plus de pics de quasi-particules à une température au-dessus de cette échelle, qui varie comme x fois une largeur de bande ou une énergie de Fermi nue. Bien, alors ça, c'est, si vous voulez, la description standard qui résulte de théories bien établies du dopage d'un isolant de Mott. Alors, avec les conséquences sur la masse effective des porteurs, qui, en l'absence de couplage antiféro, divergerait comme 1 sur X. Je reviendrai dans le cours prochain sur le fait que cette divergence est régularisée par le couplage antiferromagnétique et aussi un comportement de type liquide de Fermi de la résistivité. Alors, est-ce que ça marche dans les titanates? Eh bien, oui, ça marche bien. Vous voyez ici, alors faites attention parce que malheureusement, ces auteurs ont eu le mauvais goût de remplacer X par 1 moins X. Le matériau qu'ils considèrent ici, c'est strontium X, La1 moins X, TiO3. Donc ici, c'est près de X égale 1 qui est l'isolant de Mott et près de X égale 0 qui est l'isolant de Born. Bon, mais enfin, vous voyez ici qu'effectivement, ça marche puisqu'on voit que la susceptibilité magnétique et le coefficient gamma de la chaleur spécifique ont tendance à être renforcés et même devenir grands quand on s'approche de l'isolant de Mott et puis de retrouver le comportement de bande, qui est celui-ci ici, quand on s'approche de l'isolant de bande STO, où la couche 3D serait complètement vide. Hein? Donc vous voyez que cette description de Brinkman-Rice, elle marche bien pour les titanates, et on peut continuer ça, elle marche également bien pour la résistivité. Si je regarde la résistivité en fonction de T carré, eh bien vous avez quelque chose qui, à basse température, ici, même dans le système avec seulement 5% de trous, est bien en T carré, et puis vous voyez des déviations qui signalent le fait que cette échelle de cohérence devient petite quand on se rapproche de l'isolant de Mott. On peut aussi regarder l'effet Hall. L'effet Hall, c'est quelque chose de très important sur lequel je vais revenir dans un moment pour les cuprates. Si vous regardez l'effet Hall, ces théories, donc le nombre de Hall, hein, qui est dans la physique des semi-conducteurs une quantité qu'on utilise presque systématiquement pour déterminer le nombre de porteurs. Pourquoi? Parce que quand on a un seul type de porteur, le nombre de Hall, c'est moins 1 sur NC, donc ça contient des constantes universelles, et N, qui est la densité de porteur. Donc on utilise le nombre de Hall pour extraire la densité de porteur. Et vous voyez que dans ces titanates, eh bien, si je regarde moins 1 sur RH en fonction de X, eh bien, effectivement, c'est au voisinage de l'isolant de bande, c'est-à-dire du matériau STO, que RH diverge, et ça c'est parce que le nombre de porteurs, nombre d'électrons tend vers 0, donc RH comme 1 sur N diverge, alors que quand on se rapproche de l'isolant de Mott, eh bien au contraire, RH à une valeur finie qui ne fait rien de particulier. Et ça, vous voyez, c'est la comparaison entre les résultats expérimentaux pour RH et ce qu'on attend simplement par comptage du volume de la surface de Fermi, c'est-à-dire ce 1-x dont je parlais tout à l'heure. Et vous voyez que ça marche assez bien. Alors regardez bien ça, parce que c'est quelque chose qui, pour les cuprates, ne marche absolument pas. Mais pas du tout. Hein. Donc, vous voyez, pour résumer, que dans une approche, je dirais, conventionnelle, mais quand même qui tient compte bien des corrélations, comme les approches de Gutzwiller, de boson esclave ou de champ moyen dynamique, l'image qu'on a, c'est qu'on a une réduction du poids spectral des quasi-particules sur l'ensemble de la surface de Fermi, et la surface de Fermi reste grande, mais ce qui contrôle un certain nombre de propriétés, c'est le poids des quasi-particules, qui lui varie comme x. De sorte qu'on arrive dans ces théories, assez simplement, à rendre compte de cette dualité entre le fait que le poids du pic de Drude se comporte comme x, mais le nombre de Hall, lui, reste comme 1-x, comme la grande surface de Fermi. Voilà, donc ces théories marchent bien dans de très nombreux oxydes de métaux de transition dopés. J'ai pris ici les titanates, mais on pourrait montrer d'autres exemples. Alors, comme on est à peu près au milieu du cours, je vais en profiter pour faire une petite digression théorique qui va préparer le cours de la prochaine fois pour vous montrer comment ces approches de Gutzwiller émergent de manière très simple d'approches de type boson esclave. Alors pourquoi je fais ça? D'abord parce qu'il faut bien faire un peu de théorie de temps en temps, et ensuite parce que ça va préparer le cours de la prochaine fois. Le cours de la prochaine fois, il va être consacré aux théories d'ITER-VB. Je vais faire une heure de cours sur les théories RVB, qui quand même sont une des très belles choses qui a été faite dans ce domaine dès le début. Pour présenter ces théories RVB, il faut introduire ces idées de particules esclaves, et ça me permet d'illustrer de manière simple comment ces grands résultats physiques de l'approche de Gutzwiller se manifestent. Alors, l'idée de ces approches de boson esclave, donc il va y avoir quoi, 10 minutes peut-être, un peu plus, d'intermezzo théorique. On va dire. Alors, dans ces approches de boson esclave, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente l'espace de Hilbert. On augmente l'espace de Hilbert, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, alors prenons un cas simple, prenons par exemple le modèle TJ, la limite U infini du modèle de Hubbard, où j'ai trois états par site, vides, occupés par un spin vers le haut, par un spin vers le bas, eh bien on décide d'introduire des états additionnels, ce qui semble a priori une idée très bizarre. Pourquoi compliquer le problème? Eh bien c'est parce qu'en fait, la contrainte de non-double occupation va, avec grâce à ces états additionnels, se manifester comme une relation linéaire, une égalité et pas une inégalité, ce qui va être beaucoup plus facile pour imposer cette contrainte dans le cadre d'approches de champ moyen. Ça, c'est, si vous voulez, la version technique qui justifie ces approches. Mais du point de vue physique, en réalité, c'est parce que l'introduction de ces bosons esclaves, de ces états supplémentaires, eh bien, nous permet d'identifier de manière très économique les bonnes quasi-particules du système. Alors, comment ça marche en pratique? Donc, je vais décider de représenter l'état vide comme un état, donc l'état où il n'y a pas d'électrons, qui est en fait le singulier de Zangreis, hein, souvenez-vous, l'état où il n'y a pas d'électrons, c'est le singulier de Zangreis. Donc en fait, cet état que j'appelle zéro ici, il a une structure du point de vue de la chimie quantique qui est assez compliquée. Bon. Je vais choisir de le représenter comme un état de boson. Donc j'imagine qu'il y a un opérateur bosonique qui crée cet état, et puis l'état d'électron, avec un électron de spin vers le haut ou spin vers le bas, je le représente grâce à un opérateur fermionique F croix sigma. Alors vous voyez que si je garde ces états de bosons et ces états de fermions, je peux générer des quantités d'états qui n'ont aucun rapport avec la vraie physique du problème. Je peux mettre 2 bosons, 3 bosons, 4 bosons, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas très bien, mais ça étend l'espace de Hilbert considérablement. Pour revenir à l'espace de Hilbert physique, il faut imposer une contrainte, qui est cette contrainte ici. B croix B, le nombre de bosons plus le nombre total de fermions égale 1, et ça, c'est clairement, ça nous restera à ces trois états physiques-là. Donc on étend l'espace de Hilbert et on fait une coupe de cet espace de Hilbert qui est le sous-espace des états physiques qui, vous voyez, est maintenant complètement déterminé par une contrainte linéaire. Bon, on peut généraliser ça à n composantes de spin Je ne rentre pas dans les détails, et tout ça devient justifié dans la limite de n grand. Dans la suite de ces transparents, vous pouvez faire n égale 2, si vous ne voulez pas vous embêter avec cette n, ça sera aussi bien comme ça. Alors vous voyez que dans cette optique, l'opérateur qui crée un électron, un vrai électron physique s'écroît avec son spin sur un site I, eh bien c'est l'opérateur qui crée un de ces fermions auxiliaires et qui détruit un trou. Vous pouvez vérifier que, compte tenu de cette contrainte, cet opérateur a toutes les bonnes relations de commutation. Alors maintenant, vous pouvez réécrire l'Hamiltonien. Alors encore une fois, là, je considère l'Hamiltonien du modèle de Hubbard à U infini, c'est-à-dire le modèle TJ à J égale 0. Donc un modèle avec beaucoup de corrélations qui interdisent les doubles occupations électroniques. Et vous voyez que vous pouvez réécrire cet Hamiltonien de cette manière, simplement en remplaçant C croix par cet opérateur. Et dans cet Hamiltonien, eh bien, les trous et les pseudo-fermions bougent ensemble. Quand on détruit un trou, on crée un pseudo-fermion. D'accord ? Voilà. Et cet Hamiltonien est évidemment à considérer avec cette contrainte pour revenir au sous-espace physique. Donc il faut les deux. Il faut l'Hamiltonien et la contrainte. Alors tout ça peut se traiter assez bien dans un formalisme d'intégrale fonctionnelle. On ne va pas regarder exactement tous les détails. Mais en gros, on implémente la contrainte avec un multiplicateur de Lagrange sur chaque site et à chaque temps du système qui est chargé de s'assurer que la contrainte est bien vérifiée. Et maintenant, cette théorie est là, devant vous, et est tout à fait prête à une théorie de champ moyen. Alors, la théorie de champ moyen, à laquelle, la plus simple, c'est la théorie de champ moyen dans laquelle, eh bien, tout simplement à basse température, ce boson condense. Alors, le boson ici, le boson dit esclave. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle esclave ? Eh bien, parce qu'il est lié au mouvement du pseudo-fermion. Hein, il le suit dans son mouvement. Il est chargé de la contrainte. Ils sont liés par la contrainte. Eh bien, donc, à basse température, cette théorie de champ moyen consiste à condenser ce boson de manière uniforme sur tous les sites, hein, également dans l'espace réciproque. Donc, on a une condensation uniforme, et c'est évidemment cette amplitude de condensation qui va déterminer le poids des quasi-particules. En effet, si vous regardez cette contrainte, hein, vous voyez que ceci compte le nombre d'électrons dans le système. Hein, puisque les pseudo-fermions, ils comptent aussi les électrons. Et donc, si vous condensez B, vous voyez que B carré, c'est 1 moins le nombre d'électrons, c'est-à-dire exactement le dopage. Hein. Donc, B carré, c'est le dopage, et ceci vous dit que C croix devient un bon fermion multiplié par un facteur qui est la racine carrée du dopage, ce qui doit être lu comme les bonnes quasi-particules du système sont des fermions, mais avec un poids spectral réduit qui est de l'ordre du dopage. Donc vous voyez que le point col de le champ moyen de ces approches vous donne immédiatement des quasi-particules de Landau qui sont uniformes sur la surface de Fermi avec un poids spectral Z égale delta, tout simplement, qui est proportionnel au nombre de trous qu'on a ajoutés. Alors ça c'est le premier paramètre variationnel, le boson esclave. Le second paramètre variationnel, c'est le multiplicateur de Lagrange qui est en fait... devient complexe au point col, de sorte que I lambda est bien réel. Et tout ce que fait ce paramètre variationnel, ce second paramètre variationnel, c'est de modifier le potentiel chimique de manière que le théorème de Luttinger reste vérifié. Vous pouvez très facilement vérifier que le théorème de Luttinger est exactement vérifié par ces équations de champ moyen, de sorte que la surface de Fermi de ce système, dans cette description, reste la grande surface de Fermi dont le volume compte l'ensemble des électrons, c'est-à-dire 1 moins x. Donc vous voyez comme ces théories sont économiques, vous avez deux paramètres variationnels, un paramètre variationnel qui est l'amplitude de condensation du boson esclave, qui est le paramètre, le poids spectral des quasi-particules Z, et un autre paramètre variationnel qui est chargé de régler la taille de la surface de Fermi en accord avec le théorème de Luttinger. Alors, c'est une description d'ordre 0. Vous voyez que c'est exactement ce qu'on appelle le point col, c'est-à-dire pour l'Hamiltonien de champ moyen, l'Hamiltonien de champ moyen effectif est un Hamiltonien de fermions libres, donc les quasi-particules ont une durée de vie infinie. Hein. Donc ce sont des théories qui sont très primitives si on les prend comme ça, en ce sens qu'on a des quasi-particules parfaites, hein, qui n'ont pas de temps de vie fini. Pour aller au-delà, il faut faire des approches plus sophistiquées de type champ moyen dynamique qui permettent de réintroduire tous les états excités et un temps de vie fini pour les quasi-particules, mais la physique de basse énergie de ces approches plus sophistiquées n'est autre que celle-ci qui remonte à Boeckmann et Rice, Gutzwiller, et qui sont reformulées ici dans un langage de boson esclave. Donc voilà un peu l'histoire des bosons esclaves et des théories de Gutzwiller. Et encore une fois, je fais ça ici aujourd'hui parce que je vais utiliser ça la prochaine fois pour vous parler de ces théories d'ITRVB, donc de liens de valence résonantes, qui permettent d'avoir des éclairages très intéressants sur les grands régimes du diagramme de phase des cuprates. Bon, alors revenons un petit peu à mes titanates et à mes cuprates. Donc vous voyez, les résultats importants, c'est ça. Un poids de quasi-particules qui est le dopage, une masse effective qui va diverger comme 1 sur le dopage, au moins quand J égale 0, et puis une grande surface de Fermi qui compte 1 moins delta électron, ou 1 moins X électron. Si on veut aller plus loin, encore une fois, si on veut déduire, si on veut vraiment caractériser tous ces transferts de poids spectraux, eh bien, on peut le faire avec ces théories de champ moyen dynamique, et vous voyez que la naissance d'un pic de Drude et puis le transfert de poids spectral dans une région d'infrarouge moyen à partir de l'isolant, c'est quelque chose qu'on sait bien décrire par des théories tout à fait sous contrôle actuellement. Donc de ce point de vue-là, du point de vue conductivité optique, du point de vue poids du pic de Drude, au moins de ce point de vue-là, les cuprates ne sont pas particulièrement étranges. Ils sont relativement, je dirais, banals dans le contexte des isolants de mode dopés. Alors, maintenant, ce que je voudrais vous montrer, ce sont des aspects qui, eux, sont vraiment étonnants et qui sont les questions fondamentales que les cuprates soulèvent. C'est évidemment les choses qu'on ne comprend pas ou pas très bien, et donc c'est les choses qui vont au-delà de ces descriptions théoriques simples. Alors, j'ai choisi de commencer par mettre le projecteur sur l'effet Hall, parce que je trouve que l'effet Hall, finalement, il met bien en évidence certaines anomalies qui, elles, sont très difficiles à comprendre dans ces approches simples. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que le nombre de Hall dans ces matériaux, il a une dépendance en température forte, au moins relativement forte. Donc, vous voyez ici, pour LSCO, vous voyez le nombre de Hall en fonction de la température. Vous voyez tout de suite que c'est quelque chose qui est loin d'être plat. Alors, il n'y a pas de données sur les titanates que j'ai vu publier sur RH en fonction de T, mais il est mentionné dans les articles des groupes japonais que le nombre de Hall des titanates est relativement indépendant de la température. Mais je n'ai jamais vraiment vu de données. Mais enfin, c'est ce qui est dit. Ici, vous voyez que, d'une part, il y a une dépendance en température forte, et d'autre part, et c'est ça le point le plus remarquable, c'est que le nombre de Hall devient grand quand on va vers le système de dopage faible. Il a même tendance, on pourrait dire, à devenir, à varier en gros comme 1 sur X. Alors ça, vous voyez, c'est l'exact opposé de ce qui se passe dans les titanates ou dans beaucoup d'isolants de mode dopé. Et c'est exactement ce à quoi on ne s'attend pas du point de vue des approches de type Boeckmann-Rice. Puisque dans les approches de type Boeckmann-Rice, on a une surface de Fermi qui reste grande quand on s'approche de l'isolant de mode et RH ne fait que compter le volume de cette surface de Fermi. Alors on peut aller un petit peu plus loin. Il y a un très joli article de Ando et collaborateurs, relativement récent, qui essaye d'aller un peu plus loin et qui montre, en fonction de la température, le nombre de Hall multiplié par X. Alors ici, c'est bien X, ce n'est pas 1 moins X. Hein. C'est-à-dire, c'est le nombre auquel on s'attend en décidant que les porteurs de charge que mesure l'effet Hall, c'est les trous. Ce qui n'est pas ce que vous dit Brickman-Rice. Brickman-Rice vous dit les porteurs de charge que vous mesurez, c'est 1 moins X, c'est le volume de la surface de Fermi. Mais bon, comme vous voyez, RH devient grand quand X devient petit, l'idée naturelle, c'est que ces mesures de Hall, vous dites que c'est bien X qui est mesuré par l'effet Hall. Alors, multiplions RH par X et regardons la dépendance en température. Alors, vous voyez que la valeur 1, ici, dans cette représentation, elle correspond précisément à dire que, eh bien, on a exactement X porteurs de charge introduits par dopage. Alors, vous voyez que ce qui se passe, c'est que tout se passe comme si, à basse température, ces cuprates voulaient atteindre une valeur qui soit relativement proche de 1, en particulier à bas dopage. À bas dopage, on a l'impression qu'on va bien vers 1. Donc, l'effet Hall vous dit, j'ai X porteurs de charge, et non pas 1 moins X, et que, par contre, à très fort dopage ici, on retrouve un effet Hall plus ou moins indépendant de la température et bien compatible avec le volume de Luginger. Par ailleurs, si on va à très haute température, même pour un système de dopage intermédiaire, on a l'impression qu'on retrouve aussi le volume de Luttinger. Donc il y a une sorte de crossover en fonction de la température. Disons, si j'interprète ces données, il y a une sorte de crossover entre un régime de haute température où on aurait une grande surface de Fermi et un régime de basse température où, d'une certaine manière, la surface de Fermi serait fractionnée et ne contiendrait plus que X porteurs de charge. Alors, si vous vous souvenez de ce que j'ai montré la dernière fois sur la photoémission résolue en angle, sur laquelle je vais revenir maintenant, c'est bien ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à basse température et à bas dopage, eh bien, ce système n'arrive pas à avoir des bonnes quasi-particules sur toute la surface de Fermi, mais que ces quasi-particules sont concentrées sur une petite région de la surface de Fermi qui sont des arcs de Fermi, qui apparaissent en photoémission comme des arcs, des petites régions sur lesquelles les quasi-particules bien définies existent. Le reste de la zone de Brillouin étant mangé par le pseudo-gap. Alors ça, on peut le voir sur ce composé à 2%. Si je fais des mesures, ces gens font des mesures jusqu'à des températures beaucoup plus hautes, vous voyez, jusqu'à 900 K, et ça, c'est assez remarquable. Donc, vous voyez, ce qu'on voit ici, c'est qu'à très, très, très haute température, on retrouve peut-être le volume de Luttinger. Et puis, il y a un crossover. Ici, on atteint une espèce de plateau où on est proche de 1. Et donc, ça décrit une sorte d'évolution entre une grande surface de Fermi, qui est celle des calculs de structure de bande à haute température, et une surface de Fermi cassée en arc à basse température. Disons, quand on met l'ARPES et ces résultats d'effet Hall ensemble, ça devient particulièrement inspirant. Bon, donc j'avais parlé, et Henri Alloul en a parlé plus en détail encore la dernière fois, de cette troncation partielle de la surface de Fermi qui correspond au pseudo-gap. Je vous avais montré les résultats de photoémission. J'y reviens donc seulement très très rapidement. Je vais passer sur ces slides assez vite. Vous vous souvenez que donc la photoémission mesure la fonction spectrale pour retirer un électron du système, en première approximation tout au moins. Et ce qu'on voit, c'est que dans ces régions proches des directions diagonales, ça maintenant c'est le quart de la zone de Brillouin, le point gamma est là, le point pipi est là. Vous voyez qu'ici, dans cette direction diagonale, ça c'est la surface de Fermi à laquelle on s'attend par les calculs de structure électronique. Vous voyez qu'ici, dans cette direction diagonale, eh bien, on a un bon pic de quasi-particules dans ces mesures de Kaminsky sur Biscoe. Alors que dans la région antinodale, ici, eh bien, on n'a pas de pic de quasi-particules, d'une part. On a quelque chose de très large, donc de courte durée de vie. Et on a un recul du point d'inflexion ici, qui correspond à un déficit d'excitation à basse énergie. On a très peu d'excitation ici, qui est l'ouverture de ce pseudo-gap. Donc ça, c'est la traduction avec une sonde beaucoup plus précise, elle n'est pas plus précise, mais elle est plus raffinée parce qu'elle est résolue en K, de ce que je montrais ici, c'est-à-dire de la troncation de la surface de Fermi quand on va dans les régions sous-dopées. Donc voilà les fameux arcs de Fermi. Ça, c'est un plan, une représentation d'intensité de la fonction spectrale pour différents dopages. Vous voyez qu'à bas dopage, eh bien, on a juste une toute petite région avec des quasi-particules qui ne sont même pas très intenses près des nœuds. Et puis cet arc de Fermi commence à croître quand on se rapproche du dopage optimal ou, si vous voulez, quand on sous-dope, le pseudo-gap, c'est-à-dire le fait que des excitations disparaissent ici, se met à envahir de plus en plus ces régions antinodales, et à aller même vers les nœuds. Bon, je reviendrai sur l'état supraconducteur au cours 4. Voilà, donc ça, vous l'avez déjà vu la dernière fois, c'est le pseudo-gap vu en ARPES. Alors, pour finir sur le pseudo-gap et compléter certaines choses qu'on a vu la dernière fois et dans le séminaire d'Henri, ce pseudo-gap se manifeste dans la RMN, dans le night shift, on en a parlé en grand détail, j'y reviens pas. Sa dépendance en température, c'est quelque chose comme ça, donc c'est une échelle d'énergie qui devient grande vers le système isolant, hein, donc qui a tendance à grandir quand on sous-dope, ou à décroître quand on dope. Hein. Et vous voyez que son échelle de grandeur, son ordre de grandeur typique, n'est pas si différente des couplages magnétiques J présents dans le système. Donc de là à penser que c'est précisément le super-échange et les corrélations magnétiques qui ont tendance à créer ce pseudo-gap, il n'y a qu'un pas qui, à mon avis, a toutes les raisons d'être franchi. Alors, c'est quelque chose qui se manifeste aussi dans la chaleur spécifique. Je ne pense pas que j'avais montré ces courbes la dernière fois. Ce sont des courbes obtenues dans le groupe de Lorham et Cooper à Cambridge qui vous montrent le coefficient de la chaleur spécifique, en fait C sur T, en fonction de la température, pour IBAQO. Au dopage optimal, c'est le point 7 qui est là, d'accord, et puis sous-dopé, et puis dans les systèmes surdopés. Alors ce que vous voyez ici, donc ça c'est évidemment la transition supra, ce que vous voyez ici, hein, c'est qu'au dopage optimal, on a un coefficient de la chaleur spécifique qui est bien constant, hein, donc quelque chose d'assez banal pour un métal. Au passage, la valeur de ce coefficient de chaleur spécifique n'est pas particulièrement grande. Hein, donc là encore, le renforcement de masse effective de la théorie de Brinkman-Rice n'est pas vraiment observé dans les cuprates. Mais ça, c'est quelque chose qu'on comprend assez bien comme étant lié à l'effet du super-échange, et je vais en parler la prochaine fois. En revanche, quand on sous-dope à partir du dopage optimal, vous voyez qu'on a ici quelque chose qui est un comportement de poly auquel on s'attend, et puis on a une baisse de ce coefficient de chaleur spécifique, donc ça veut dire une chaleur spécifique qui n'est plus linéaire en température, à basse température, ce qui traduit bien, puisque le coefficient gamma mesure la densité, une densité d'état, ce qui traduit bien une baisse d'état excité quand on baisse la température. Donc ça, c'est la signature en chaleur spécifique de l'ouverture du pseudo-gap. Quand on va du côté surdopé, c'est-à-dire à droite du dôme supra, en revanche, ce phénomène n'est pas là, les choses sont bien plates au-dessus de TC. Alors, ces expériences supposent, et c'est pour ça qu'elles sont quelquefois prises avec des pincettes, elles supposent une soustraction du spectre de phonons, hein, de la contribution des vibrations du réseau à la chaleur spécifique, ce qui est toujours une opération délicate. Je signale au passage qu'il y a des méthodes de calorimétrie grâce à la spectroscopie de photoémission pump probe qui ont permis, au moins dans le cas au dopage optimal, qui ont permis de confirmer au moins la forme, disons, qualitative de ces courbes. Donc, parce qu'elles mesurent, ces méthodes sont censées mesurer directement la chaleur spécifique électronique. Bien, donc, le message sur ce coefficient gamma, c'est que d'une part, il n'y a pas de fort renforcement de masse effective dans ces systèmes, et d'autre part, l'ouverture du pseudo-gap se manifeste comme une perte d'excitation à basse température, aussi dans la chaleur spécifique. Alors, cette ouverture du pseudo-gap, c'est quelque chose qui se manifeste aussi dans d'autres quantités physiques. C'est quelque chose qui se manifeste en particulier dans les mesures de transport et d'optique selon l'axe C. Voilà une mesure de transport selon l'axe C du groupe de Bassoff. Les premiers à avoir vu ça, c'est Timusk et collaborateurs. Vous voyez qu'à haute température, lorsqu'on est dans un régime où on voit une grande surface de Fermi, eh bien on a une conductivité selon l'axe C qui est assez incohérente, qui n'a pas de pic de Drude fin, parce que c'est des très mauvais conducteurs selon l'axe C, mais qui est quand même plate. Alors que quand on baisse la température, eh bien on a une perte complète de conductivité optique selon l'axe C, avec une fréquence de coupure, hein, qui est ici 200 cm moins 1 ou 400 cm moins 1. 8000 cm moins 1, c'est 1 EV. Donc vous voyez qu'on est à une petite fraction d'électron-volt ici. Ça, c'est complètement différent de ce qu'on voit en conductivité optique selon AB. Quand ce qu'on voit en conductivité optique selon les plans, c'est au contraire l'émergence d'un pic de Drude. Ici, on voit une perte d'excitation. Hein. Donc l'axe C semble voir ce qui se passe aux antineux. C'est aussi quelque chose qu'on voit en transport selon C. Ça, ce sont des belles expériences qui sont dues à Hélène Raffi à Orsay, qui vous montrent que selon l'axe C, eh bien, on a une sorte de comportement, disons, de très mauvais métal à haute température, et puis une certaine température caractéristique qu'on peut identifier à la température du pseudo-gap, où la conductivité selon l'axe C devient une conductivité de type, disons, isolante, au sens où elle remonte quand on baisse la température. Donc ça, c'est bien en accord avec le fait qu'on perd de la conductivité optique à basse fréquence. Alors pourquoi est-ce que l'axe C voit bien la physique du pseudo-gap? Pourquoi plutôt la physique du pseudo-gap domine l'axe C, disons? Alors ça, c'est une raison qui est assez facile à expliquer. C'est parce que pour faire tunneler un électron d'un plan à l'autre, il faut en fait utiliser les oxygènes apicaux pour pouvoir passer par hybridation d'un plan à l'autre. Et en fait, c'est facile de montrer que le facteur de forme pour cette transition, il est proportionnel à cosinus kx moins cosinus ky au carré. Et donc, vous voyez que selon les directions nodales, eh bien, ce facteur de forme est nul et il est maximal dans les directions antinodales. C'est une pure raison, je dirais, de chimie du matériau. En conséquence de quoi, les régions nodales, qui sont celles où il y a les bonnes quasi-particules du système, ne contribuent essentiellement pas au transport selon C, et le transport selon C, l'optique selon C, est dominé par les régions antinodales. Donc voilà pourquoi le pseudo-gap, qui est un phénomène antinodal, se manifeste de manière très forte dans les mesures de transport et d'optique selon C. Alors, on va entendre parler, je suis sûr, dans le séminaire de Christophe Berthaud, de la manière dont le pseudo-gap se manifeste dans les spectroscopies de microscopie à effet tunnel. Donc, je ne vous en parle pas plus en détail. Bon, alors, pourquoi tout ça est-il défi à la théorie? Je crois que c'est assez clair à la lumière de cette comparaison avec les titanates, d'une part, et du point de vue théorique avec les théories de Brinkman-Rice. Vous voyez que le défi, c'est de comprendre comment l'approche de l'isolant de mode dans ces systèmes est une approche qui est très non uniforme dans l'espace réciproque. L'approche de Brinkman-Rice, c'est une approche uniforme où tous les points de la surface de Fermi font la même chose, c'est-à-dire développent des quasi-particules de poids spectral réduit proportionnel au dopage. Ici, clairement, ces systèmes choisissent une approche de l'isolant de mode qui est très originale, dans laquelle les quasi-particules sont maintenues dans les régions nodales, détruites dans les régions antinodales, et l'approche de l'isolant de mode ne se fait pas par réduction à zéro du poids spectral sur toute la surface de Fermi, mais plutôt par contraction des zones où les quasi-particules sont bien définies, c'est-à-dire par contraction de la taille de ces arcs de Fermi, au moins si on regarde les choses dans un régime de température intermédiaire. Voilà le défi, c'est de comprendre cette route particulière, ce chemin particulier vers l'isolant de Mott que choisissent ces métaux, qui n'est pas celle des théories les plus établies du dopage d'un isolant de Mott. Les questions clés qui se posent à propos du pseudo-gap, on en a déjà parlé la dernière fois, je n'y reviens pas vraiment. Est-ce que c'est une brisure de symétrie ou non? Est-ce que c'est l'effet de J ou d'autre chose? Je voudrais finir ce cours en vous parlant un petit peu de transport. Alors, j'ai commencé à vous parler de transport en vous parlant d'effet Hall, bien sûr. Mais je voudrais continuer avec les régimes principaux de transport. Comme ça, on aura vu à peu près un bon nombre de spectroscopies. Disons, on aura vu la spectroscopie de photoémission, on aura vu du STM tout à l'heure, on aura parlé des conséquences du pseudo-gap pour l'ARMN. Donc le transport, ça vaut le coup d'entrer un peu plus dans les détails. Alors voilà des expériences de résistivité, des mesures de résistivité pour LSCO, LA2CO4 dopé en trou, qui ont été effectuées par Takagi très tôt dans le domaine, donc quelques années après la découverte de cuprate. Et vous voyez que ces courbes de résistivité ont un comportement très intéressant et pas très banal. Alors, vous voyez ici, c'est un système dopé à 4% de trous. Alors, ce que vous voyez, c'est que la résistivité, elle a une espèce de forme en S. On n'est pas du tout dans un système où on pourrait imaginer qu'on atteint un régime de type liquide de Fermi en T2, comme on l'avait vu pour les titanates. De plus, ça serait absurde d'essayer de faire un feed de ces données par une telle loi, parce que si vous mettez un peu des nombres, vous voyez que la résistivité, elle est supérieure ici à 2 milliohms centimètre. Et si vous convertissez ça, je vais l'expliquer dans le transparent suivant, en libre parcours moyen, dans une analyse de Drood banale, eh bien vous verrez que le libre parcours moyen correspondant est plus petit que la maille du réseau. Donc, ça serait absurde d'interpréter ces résistivités comme des quasi-particules qui se promènent dans le système sur des grandes distances, parce que ces quasi-particules, elles n'ont pas le temps de se promener sur plus d'une maille du réseau sans avoir, subir une diffusion. Alors, cette limite ici, c'est la limite qui correspond au libre parcours moyen de l'ordre de la maille du réseau, en gros, ce qu'on appelle la limite de Mott-Ioffe-Regel. Et vous voyez que tous les cuprates sous-dopés ont... Enfin, tous ces matériaux sous-dopés, dans le cas des LSCO, ont, sur une large gamme de températures, une résistivité qui est grande devant la limite de Ioffe-Regel. Donc certainement ici, dans tout ce régime ici, il n'est pas raisonnable d'interpréter le transport dans ces systèmes comme dans une image de Drude standard. Alors ça, ça a été baptisé d'un nom. On a appelé ça des mauvais métaux. Pourquoi des mauvais métaux? Parce que ce sont des métaux dans la mesure où la résistivité augmente avec la température, ce qu'on peut prendre comme une sorte de définition lâche de ce qu'est un métal, à la différence d'un isolant où c'est l'inverse, mais des métaux qui ont des résistivités très mauvaises et très élevées, et en tout cas où les libres parcours moyens qu'on extrairait naïvement, disons, de ces données seraient très très courts. Alors vous voyez qu'en revanche, quand on atteint le dopage optimal, quand on commence à doper plus, qu'on atteint en particulier 15%, qui est ici le dopage optimal, eh bien, on observe une résistivité qui, elle, passe bien en dessous de la limite de Ioffe-Regel. Hein, donc on arrive ici à des métaux qui sont de meilleurs métaux. Mais ce meilleur métal a une résistivité qui n'est toujours pas en T2, et elle est même remarquablement linéaire, comme vous le voyez, sur un régime de température qui est assez incroyable, depuis TC, qui est 35K, comme vous savez bien, pour ce matériau, jusqu'à 1000K. Alors là, la question qui se pose, c'est où sont les phonons? Pourquoi on a une résistivité aussi linéaire, hein? On pourrait s'attendre à des comportements ici en T puissance quelque chose, dû à la diffusion avec les phonons. On ne le voit pas. Et quelle est l'origine de cette résistivité linéaire? Alors si maintenant je passe du côté surdopé, faites attention au changement d'échelle ici. Là, il y a un facteur 10. Hein? Ici, on est 0,8 milliohms centimètres, ça c'est 8 milliohms centimètres. Vous voyez que du côté surdopé, on obtient d'une part des métaux bien meilleurs, qui sont toujours en dessous de cette ligne rouge, bien en dessous par ici, hein, et d'autre part, des résistivités qui ne sont plus linéaires en température, mais qui ont un comportement incurvé, qui n'est pas tout à fait T2, mais qui commence à s'en rapprocher. Alors sur la base de ce type de données, on peut essayer de tracer une espèce de diagramme des phases des cuprates vu à travers les propriétés de transport statique, vu à travers la résistivité, et il y a plusieurs manières de faire ça. Ah oui, je vais quand même expliquer un tout petit peu Ioffe-Regel d'abord, excusez-moi. Donc Ioffe-Regel, c'est très simple. Partez de la formule de Drude standard pour la conductivité, donc N2 taux sur M, et on va se spécialiser à deux dimensions, ce qui est le cas de ces matériaux. Donc ici, on a un libre parcours moyen qui est la vitesse de Fermi, c'est une analyse très naïve, hein, la vitesse de Fermi fois le taux de diffusion. Cette analyse est naïve dans la mesure où elle suppose une grande surface de Fermi, un taux de diffusion uniforme sur toute la surface de Fermi. Donc elle dit des choses moyennes. En particulier, si j'ai des régions avec des quasi-particules de longue durée de vie et des régions où il n'y a pas de quasi-particules du tout, je ne sais pas exactement ce que dit cette analyse. C'est une analyse, disons, simple. Voilà, donc le libre parcours moyen, c'est VF taux. La densité de porteur interprétée par une grande surface de Fermi, bah, c'est le volume de la surface de Fermi. Vous pouvez donc réécrire cette formule pour la résistivité en utilisant ces deux quantités plutôt que taux M et N sous la forme ρ égale un préfacteur qui est la dimension d'une résistivité, donc le quantum de résistance fois une distance qui est la distance interplan, fois un nombre sans dimension, qui est le produit du moment de Fermi par le libre parcours moyen. Alors, cette valeur ici, ρm, hein, c'est ce qu'on appelle la limite de Mott-Ioffe-Regel, et vous voyez qu'on atteint la limite de Mott-Ioffe-Regel quand KFL, qui est le libre parcours moyen en unité de 1 sur KF, c'est-à-dire en gros en unité de la maille du réseau, à des facteurs pi près, hein, eh bien, atteint une valeur d'ordre 1. Donc, pour avoir une interprétation en termes de bonnes quasi-particules, au moins dans cette approche uniforme sur la surface de Fermi, il faut avoir des résistivités plus petites que cette limite de Mott-Ioffe-Regel. Et quand vous mettez les nombres, hein, H sur E2, c'est 27 kilo-ohms, la distance entre plans, elle est connue, disons 15 angstrom, quelque chose comme ça. Quand vous mettez les nombres, vous trouvez que Roumot est de l'ordre de 1 à 2 milliohms centimètres. Bon, alors, donc on a ces mesures de résistivité et on veut tracer une espèce de diagramme de phase des cuprates vu à travers ces expériences de résistivité. Alors, ça dépend comment on s'y prend. Il y a différents auteurs qui vous donnent différents diagrammes selon la manière dont les données sont analysées. Donc voilà par exemple, bon, les différences ne sont pas considérables, mais disons, elles existent quand même. Voilà par exemple un article de revue récent de Nigel Yussi, qui est très bien fait, dans lequel on a en gros les régimes suivants. Ici, on a ce régime, disons, du pseudo-gap, qui est caractérisé par des résistivités qui ont cette forme en S, hein, donc je vous remonte les courbes, c'est une espèce de S, comme ça, hein. Cette ligne-là est tracée en essayant d'identifier un espèce de genou ici qui sépare un régime, je dirais, quasi linéaire, mais vous allez voir qu'il n'est pas si linéaire que ça en fait, et un régime où la résistivité s'incurve. Donc ça, c'est ce régime-là. Ici, on a un régime du côté surdopé où on commence à retrouver une résistivité courbée, à basse température tout au moins, et puis entre les deux, dans cette représentation, il y a une espèce d'éventail de résistivité linéaire qui est particulièrement étendu au dopage optimal, ça tout le monde est d'accord, et puis qui s'étend de part et d'autre au fur et à mesure qu'on augmente la température. Alors ça, c'est si on considère que ceci est en gros une résistivité linéaire, ceci est aussi en gros une résistivité linéaire comme celle-là. Alors en fait, ça, c'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde les choses de manière plus précise, et le grand spécialiste de ça, un des grands spécialistes de ça, c'est Ando, au Japon. Alors lui, il a eu une bonne idée, c'est de faire d'établir ce diagramme de phase sur des bases assez objectives où on mesure numériquement, enfin on prend des dérivés numériques des données pour regarder la courbure des courbes de résistivité, donc la dérivée seconde de la résistivité en fonction de la température, donc il faut quand même des bonnes données pour faire ça. Et puis on représente, dans ces beaux diagrammes en couleur, l'exposant effectif qu'on trouve. Alors, une résistivité linéaire, ça fait une deuxième dérivée qui est nulle, d'accord ? Donc, c'est l'exposant est zéro, d'accord ? La valeur de la courbure est zéro. Et puis, quelque chose de positif, hein, ça veut dire quelque chose qui est en t puissance alpha avec alpha plus grand que 1, et quelque chose de négatif, c'est en t puissance alpha avec alpha plus petit que 1. En gros, c'est ça. Alors, j'en profite au passage pour dire que le grand apport de ce groupe et d'autres à ce domaine, c'est quand même pas d'avoir fait ces plots en couleur, c'est quand même la qualité des données de transport que ces gens ont. C'est vraiment tout à fait remarquable. En particulier, vous voyez que, par exemple, sur ce système ici, avec les méthodes de croissance cristalline qu'ils ont, ils arrivent à avoir des conductivités métalliques sans cette remontée de résistance à basse température dont Henri nous a expliqué qu'elle était due aux impuretés et aux désordres la dernière fois. Donc ça vous donne on ne voit pas ces remontées, donc ça vous dit que ces échantillons sont vraiment remarquablement propres. Hein, vous voyez aussi que les résistivités sont relativement bonnes ici. Donc c'est quand même de très 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 belles données de transport. Et donc quand on fait ces cartes de cette courbure de la résistivité, vous voyez que, en fait, c'est particulièrement frappant pour ce matériau-là, vous voyez que le régime de résistivité linéaire, il est en fait très très concentré au dopage optimum. Donc c'est la ligne blanche ici qui correspond à une valeur de la courbure qui soit zéro. Donc en fait, ce que dit Ando, c'est que quand on est au-dessus de la ligne de la température caractéristique du pseudo-gap, la résistivité ici, si vous voulez, elle n'est jamais vraiment linéaire. Elle a en fait une petite courbure négative qui correspond à une courbe comme ça. Qui correspond à cette région ici. Et on peut, donc vous voyez ici une courbure comme t puissance alpha, alpha plus petit que 1, ici une courbure comme t puissance alpha, alpha plus grand que 1, et donc c'est la zone rouge ici, et puis entre les deux, il y a un point d'inflexion, et c'est ce point d'inflexion qu'on peut identifier avec la température du pseudo-gap. Et donc ici, ce type de carte a pour mérite de faire sortir de manière assez claire deux lignes de crossover, une ligne qui est la ligne de résistivité linéaire qui est quasiment concentrée au dopage optimal, au moins pour ce matériau-là, et puis une ligne ici qui est le pseudo-gap identifié en transport. Alors vous voyez que pour LSCO, Là aussi, il y a une ligne de pseudo-gap assez claire. Et là, il y a un régime de résistivité linéaire qui est un peu plus étendu, mais qui est quand même assez bien concentré autour du dopage optimal. Donc vous voyez que le type de carte qu'on obtient en utilisant ce type de représentation n'est pas tout à fait ça. Hein, c'est plutôt une représentation où cette zone de résistivité linéaire serait beaucoup plus concentrée autour du demi-remplissage, autour du dopage optimal. Bon, mais enfin, en gros, les points qualitatifs, en tout cas, ça c'était peut-être un peu, disons, entrer dans les détails, les grands points qualitatifs qui apparaissent à travers de ces mesures de transport, on peut les résumer comme ça. Il y a des résistivités qui sont grandes, qui ne saturent pas à haute température, qui sont plus grandes que la limite naïve de Motzio-Ferrigel dans le régime sous-dopé, donc ce régime de mauvais métal. Le terme est dû à Mike Evelson. Un régime de résistivité linéaire assez mystérieux et qui a fait couler beaucoup d'encre dans ce domaine, qui pourrait être relativement concentré autour du dopage optimal. L'apparition du pseudo-gap à T étoile se caractérise par une déviation assez claire, un genou dans la résistivité, qu'on peut attribuer à une perte de scattering, une perte de canal de diffusion due à l'ouverture du pseudo-gap. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez bien en optique, hein, où on perd de la diffusion à basse fréquence quand on passe en dessous de Testa. Et puis, quand on va du côté surdopé, des métaux bien meilleurs, en dessous de la limite de Motzio-Ferrigel, qui deviennent de plus en plus, je dirais, conventionnels, dans le sens où la résistivité est plus en T2, mais on n'atteint jamais vraiment si bien T2 que ça, et il reste des anisotropies sur la surface des Fermi. J'aurai peut-être le temps d'en parler vers la fin de ces cours. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Pour résumer les questions que ces expériences de transport soulèvent, clairement, ce régime de mauvais métal, c'est-à-dire des régimes de transport où la limite naïve de Motzio-Ferrigel est violée, on n'a pas de quasi-particules, mais on veut quand même comprendre le transport qui semble dominé par les interactions électron-électron, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas tant d'outils théoriques que ça et qui demande des efforts théoriques pour comprendre ce régime. Donc ça, c'est un premier point. Évidemment, une des grandes questions, c'est l'origine de la résistivité linéaire au dopage optimal. Et en particulier, est-ce qu'il faut conceptuellement connecter ce régime de mauvais métal à haute température au-dessus de Testar dans les systèmes sous-dopés et la résistivité linéaire observée au dopage optimal, dont je rappelle qu'on a plutôt des bons métaux. Hein, autrement dit, pour être très concret, et ça c'est à vous de choisir, si vous regardez cette courbe, est-ce que vous avez tendance à voir ce phénomène comme la continuation sur une large gamme de température de ce phénomène ici, le testar étant poussé vers le bas, de sorte qu'on ne voit plus que ça, et en même temps, l'échelle absolue diminuant, ou est-ce qu'en réalité, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses? Il y a ici une source de diffusion dans le régime sous-dopé qui est très forte, qui conduit à ce régime de mauvais métal, qui disparaît, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment associé au voisinage du dopage optimal, et ce n'est pas la même source de scattering qui est responsable de ce comportement-là que de ce comportement-là. Donc je ne pense pas que cette question soit... je suis même certain qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur cette question. Donc je vous laisse avec cette question pour aujourd'hui. On va prendre une pause jusqu'à en gros 15h30, un bon quart d'heure, et on va reprendre avec le séminaire de Christophe Berthaud que j'ai vu arriver tout à l'heure.